J'entends le cantique tout à l'heure. Il m'est venu à l'esprit cette expression que nous trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Cette expression, c'est Dieu est pour nous. Nous lisons au verset 31 de l'Épître aux Romains. Que dirons-nous donc à ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le cantique évoquait la protection divine, la protection du Seigneur. Et un croyant, en traversant ce monde, eh bien, il a besoin de réaliser que quelles que soient les difficultés que nous pouvons connaître, eh bien, Dieu est pour nous. Il n'est jamais contre nous, il est pour nous. Et c'est une expression infiniment précieuse pour un croyant de savoir que Dieu est pour nous. Et dans ce chapitre 8, il est parlé à trois reprises des soupirs. Et des soupirs ou des gémissements. Et donc, en grec, c'est la même expression, soupir ou gémissement. Et donc, en traversant cette terre, nous pouvons être amenés à soupirer et à gémir. Et pouvons lire dans ce chapitre 8, au verset 22, « Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi. » Qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. L'apôtre nous dit que l'atmosphère sur cette terre est une atmosphère de gémissement, de soupir. Et nous voyons que ce mot revient trois fois, et ce n'est pas étonnant, et nous connaissons ce qu'est la corruption dans ce monde, le mensonge, l'esclavage du péché, et nous savons que dans cette atmosphère particulière et sans doute douloureuse, eh bien, cette atmosphère est caractérisée par ces gémissements. Et nous voyons que l'ensemble de la création gémit, soupire. Pourquoi? Bien, tout est ruiné par le péché. Et nous voyons autour de nous ce qu'il en est, que ce soit dans le monde entier, que ce soit partout. C'est vraiment une atmosphère particulière. Il y a des luttes, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des troubles. Et nous voyons que la parole nous dit que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant, et non seulement elle, mais nous-mêmes, eh bien, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Et donc nous sommes amenés, les croyants, à soupirer. Et ce sont peut-être des soupirs qui sont silencieux, peut-être moins démonstratifs, mais le chrétien, quand il est sérieux et sincère, et bien, et surtout instruit par Dieu lui-même, ressent ces choses profondément. Et nous voyons aussi dans le verset 26, « De même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. » Et pourront pas dire, bien sûr, que l'Esprit gémit, mais nous pouvons dire avec ce qu'il est dit ici que l'Esprit lui-même nous est en aide dans notre infirmité. Et les gémissements des croyants sont en relation aussi avec nos infirmités. Et donc, nous voyons que le Saint-Esprit qui habite en nous, dans notre corps, dans le corps du croyant, eh bien, il soupire, et quand nous ne savons pas demander comme il convient, eh bien, l'Esprit lui-même intercède. Et nous voyons que Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit, c'est une personne divine, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, il est pour nous. Et c'est une pensée extraordinaire de savoir qu'en traversant cette terre où la création gémit, où les croyants aussi gémissent, à cause de la ruine qui vient du péché, eh bien, le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous, il intercède pour nous. Et nous voyons que Dieu, le Saint-Esprit, cette personne divine, eh bien, elle intercède pour nous. Et c'est une pensée qui est extrêmement réconfortante et consolante de savoir que dans cette terre ou sur cette terre, de péché, eh bien, dans les croyants, le Saint-Esprit, il intercède pour nous. Il est pour nous. Et non seulement cela, mais dans le verset 28, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. C'est-à-dire, sur cette terre dans laquelle ou sur laquelle nous sommes, cette terre de gémissement, eh bien, Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Et nous voyons donc que non seulement le Saint-Esprit intercède pour nous, mais nous voyons aussi que Dieu est pour nous. Et comme il est dit au verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Et non seulement il est pour nous, mais il fait concourir toutes choses pour notre bien, et toutes ces choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est une pensée extrêmement réconfortante de savoir que dans les temps actuels, que soient les situations que nous pouvons nous trouver comme croyants. Dans les pays occidentaux, nous avons une certaine paix. Nous n'avons pas la guerre ici. Mais nous savons aussi qu'il y a des zones de conflit, de guerre. Et dans ces zones de conflit, dans ces pays, nous avons des frères et des sœurs qui connaissent la guerre, qui peuvent connaître la persécution, les privations. Et nous pouvons comprendre peut-être beaucoup mieux que ces, nos frères et nos sœurs gémissent. Ils soupirent après l'éternel domicile qui sera le nôtre dans le ciel. Et peut-être que nous, dans notre propre situation, nous n'avons peut-être pas ce sens profond et que cette terre est une terre de péché, mais aussi c'est une terre qui gémit. Eh bien, dans ces situations sur cette terre, eh bien, nous avons réalisé, et eux avec nous, et nous avec eux, que Dieu est pour nous. Et que, quelles que soient les situations, eh bien, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une pensée extrêmement réconfortante de savoir que nous avons la protection divine, mais que quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons traverser, nos infirmités, les maladies, tellement de choses qui peuvent nous amener à soupirer, mais Dieu est toujours pour nous, il n'est jamais contre nous. Encore, je voudrais lire un verset dans un psaume, deux ou trois versets, dans un psaume qui est aussi d'une grande consolation, et c'est le psaume 91, qui est bien sûr un des psaumes messianiques, mais nous avons besoin de saisir par la foi aussi ce qui nous est dit dans ce psaume. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une pensée extrêmement consolante de savoir que nous pouvons nous réfugier aujourd'hui, tout croyant, nous réfugier et habiter dans la demeure secrète du Très-Haut et nous abriter à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quelque chose de savoir que Dieu est notre refuge et une haute retraite, comme cela a été exprimé dans la prière tout à l'heure. Avoir une vie de communion avec notre Dieu et Père et avec le Seigneur Jésus, eh bien, c'est habiter dans la demeure secrète du Très-Haut. Et là, nous sommes à l'abri, nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous voyons la confiance que exprime le psalmiste ici. Il dit bien que Dieu est sa confiance, son lieu fort, il est mon Dieu et je me confierai en lui. Et alors, les conséquences suivent de la protection divine, comme nous avons chanté tout à l'heure. Eh bien, il nous est dit, il te délivrera du piège de l'oiseleur. C'est le diable, l'oiseleur c'est Satan, c'est le diable. Eh bien, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, qui a confiance en Dieu, qui se confie en lui, eh bien, il sera délivré des pièges que le diable peut poser sur nos pas et être gardé de chute et de tombée. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier, et ta rondache, tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, et toi, tu ne seras pas atteint. Quelles expressions du psalmiste, cette confiance qu'il exprime en son Dieu. Bien sûr, ce sont des images tout à fait remarquables, mais apprenons à lire la parole de Dieu et qu'elle puisse s'implanter dans nos cœurs, comme il est dit dans le premier chapitre de Jacques, la parole implantée. En grec, c'est greffé. Une parole implantée, c'est une parole qui est greffée dans mon cœur, qui est greffée dans mon être, qui est greffée dans mon âme. Eh bien, les expressions de ce psaume, ces paroles tout à fait remarquables, cette confiance qu'il avait, il te délivrera du piège de l'oiseleur, il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, tu auras un refuge. Lisons et relisons la parole de Dieu, qu'elle puisse habiter en nous richement et que cette parole implantée puisse nous consoler dans les circonstances que chacun nous puissions traverser et de ne jamais oublier que dans toutes ces circonstances, bien Dieu est pour nous et Dieu n'est jamais contre nous.
En Romains 8, nous savons que le Seigneur, notre intercesseur divin dans le ciel comme l'Esprit, sur la terre. Et nous pouvons encore lire en Romains 8 les deux derniers versets, 38 et 39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Versets 38 et 39.
Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Rapidement, la lecture de quelques passages. Notre frère nous a rappelé que Dieu n'est jamais contre nous et qu'il est pour nous et qu'il combat pour nous. Un premier verset dans 1 Chronique 16, verset 25. Car l'Éternel est grand et fort digne de louange, il est terrible par-dessus tous les dieux. Il nous faut aussi avoir en tête que, et je crois que c'est bon de nous le rappeler régulièrement, que nous avons affaire à un Dieu qui est au-dessus de tout, pour qui strictement rien n'est impossible. Nous sommes dans des corps limités, mais nous avons affaire à un Dieu fort digne de louange et terrible par-dessus tous les dieux, pour qui rien n'est impossible, et est au-dessus de toutes les circonstances. Puis nous avons rappelé qu'il combat pour nous aussi. Alors là, on a aussi un autre verset de l'Ancien Testament, mais on peut se l'approprier dans 2 Chroniques au chapitre 20 et au verset 17. Ce n'est point à vous de combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Peut-être encore deux versets, un troisième dans le psaume 46. Dans le psaume 46, au verset 1er, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans la détresse, toujours facile à trouver. » Toujours facile à trouver. Et enfin, un passage que nous connaissons probablement très bien, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. La parole fait souvent mention de ne pas être en souci ou ne pas nous inquiéter. C'est peut-être que c'est une chose qui est peut-être naturellement ancrée en nous, c'est de s'inquiéter. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive de même m'inquiéter pour des événements qui ne sont pas encore arrivés. C'est-à-dire que je suis dans mon canapé, puis je me dis, je commence à réfléchir. C'est souvent dans les moments où je suis bien, et puis je me dis, et si ? Et si il arrive ça ? Et puis là, vous, par effet d'engrenage et de boule de neige, et ben le côté anxieux qui s'accélère. Et c'est assez surprenant, je trouve, dans la parole, parce que très souvent, le Seigneur lui-même nous encourage à ne pas nous inquiéter. Et il le répète souvent. Hein. Ça veut dire que je dois savoir qu'on a une tendance naturelle à nous inquiéter. Et on a affaire à un Dieu qui est pour nous et qui ne veut pas que nous nous inquiétions. Et on peut lire ce passage donc dans Matthieu 6, au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, je lirai jusqu'à la fin du chapitre, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez aux oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux ? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille ? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement ? Étudiez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui, et qui demain est jetée dans le four, ne vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi ? Ne soyez donc pas en souci, disant, que mangerons-nous et que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus ? Car les nations recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. »
C'est des choses précieuses qu'on a vues dans ces passages des Romains et aussi dans ce psaume, tous ces passages-là. Les assurances de Dieu, les soupirs ou ce qu'on vient de voir dans Matthieu sont liés à notre état, dans notre faiblesse naturelle, dans ce que nous sommes. Je pense à un autre passage où il y a un autre registre dans Genèse, l'histoire de Jacob. Quand Joseph est en Égypte, quand les frères de Joseph vont chercher de la nourriture, on a ces paroles de Jacob qui montrent un état, qui on peut dire être un mauvais état dans un sens. Quand il dit à ses fils, chapitre 42, verset 36, Genèse 42, 36, Jacob, leur père, leur dit, « Vous m'avez pris